vaisselle, faut pas que ça se perde. Qui c'est qui doit rester belle, les mains dans la merde.
Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera.
Vous mariez pas les filles, ne vous mariez pas.
Histoire d'elle.
Ces femmes parfaites,
de mauvaise vie,
libérées,
soumises,
d'esprit,
fatales,
tatouées,
douces,
savantes,
de l'être,
faciles,
fidèles,
bonnes femmes,
au foyer,
modernes,
citoyennes,
de caractère,
combattantes.
Écoutez-nous.
Nous vous parlerons d'elles, de vous et des autres.
Le premier dimanche de chaque mois à 13h.
Eh bien, bonjour à tous.
Bonjour.
Chères auditrices et auditeurs. Donc, nous voici repartis pour une nouvelle saison d'Histoire d'elle.
Tout à fait.
Donc, toujours en compagnie de Marie-Christine.
Et de Mireille.
Voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons vous parler de Simone de Beauvoir, qui est aussi surnommée Le Castor, donc philosophe iconoclaste qui changea le destin des femmes, souvent considérée comme une théoricienne majeure du féminisme, notamment grâce à son magnum opus « Le deuxième sexe », publié en 1949, ouvrage encyclopédique s'inscrivant dans le courant philosophique de la phénoménologie et en particulier dans son mouvement existentialiste. Simone de Beauvoir a ardemment participé au mouvement de la libération des femmes dans les années 70. Elle a partagé sa vie avec le philosophe Jean-Paul Sartre et leur philosophie, bien que très proche, ne saurait quand même être confondue.
Alors, que dire ? Bah, on va commencer par sa naissance. Donc, elle voit le jour à Paris le 9 janvier 1908, dans un appartement cossu au 103 boulevard du Montparnasse. Son père est avocat, c'est un comédien amateur. Elle fait toute sa scolarité de l'âge de 5 ans au bac, au cours des IR, où sont scolarisées finalement les jeunes filles de bonne famille. Sa sœur cadette Hélène, dite Poupette, l'y rejoint 2 ans plus tard. Dès le plus jeune âge, Simone de Beauvoir se distingue par ses capacités intellectuelles. Elle partage chaque année la première place avec Elisabeth Lacoing, dite Elisabeth Mabille ou Zaza, dans son autobiographie. Et Elisabeth Lacoing devient rapidement sa meilleure amie. Dans sa jeunesse, Simone de Beauvoir passe ses vacances d'été en Corrèze, à Saint-Ibard, dans le parc de Mérignac, créé en 1880 par son grand-père Ernest Bertrand de Beauvoir. La propriété avait été acquise par son arrière-grand-père Narcisse Bertrand de Beauvoir au début du XIXe siècle. On retrouve de multiples évocations de ses séjours heureux en compagnie de sa sœur Hélène dans ses mémoires d'une jeune fille rangée. Et c'est au contact de cette nature, au cours de ses longues promenades solitaires dans la campagne, qu'elle voit émerger en elle le désir d'une vie hors du commun. Après la Première Guerre mondiale, son grand-père maternel, Gustave Brasseur, ancien président de la Banque de la Meuse, qui a fait faillite, et son grand-père donc, est déclaré banqueroutier, précipitant toute sa famille dans le déshonneur et la déconfiture. Les parents de Simone sont donc contraints, par manque de ressources, de quitter l'appartement du boulevard du Montparnasse. Et ils se retrouvent dans un appartement sombre, exigu, 5e étage sans ascenseur, dans un immeuble de la rue de Rennes. Et les relations entre ses parents se dégradent et Simone en souffre beaucoup. La suite de son enfance sera marquée par ce contexte, à la fois de déchéance un peu sociale et puis du fait que ses parents ne s'entendaient plus, quoi. Alors, dans son milieu, à cette époque, une jeune fille ne faisait pas d'études poussées. Hein. L'idée, c'était quand même qu'elle se marie,
bon mari,
et puis, si possible, un bon parti. Voilà. Pourtant, son père, passionné de théâtre et d'art dramatique, pense que le plus beau métier est celui d'écrivain. Il est convaincu que ses filles doivent s'y résoudre pour sortir de la condition dans laquelle elles se trouvent. Ne pouvant pas offrir de dot à Simone et à Hélène, il les encourage à poursuivre leurs études, afin d'avoir un métier si elle devait rester célibataire. Ce fut pour Simone la clé de l'indépendance et de la liberté.
Voilà, il faut bien commencer. Allez, alors un petit extrait de Stravinsky, là, Pulcinella, qui était un des morceaux préférés de Simone de Beauvoir. Alors, Simone, elle a été élevée par une mère très pieuse et elle est devenue elle-même une croyante exaltée et mystique pendant quelques années. Alors, mais elle va perdre progressivement sa foi à partir de 14 ans, hein, bon. Et bien avant son départ du court désir. Elle commence à s'émanciper intellectuellement de sa famille sans pouvoir immédiatement l'assumer au grand jour. À 15 ans, mais son choix est déjà fait, elle sera écrivain célèbre. Après le bac en 1925, malgré son attirance pour la philosophie, elle se dirige d'abord vers une licence classique. Elle entame donc des études supérieures à l'Institut catholique de Paris pour les mathématiques et à l'Institut Sainte-Marie de Neuilly pour les lettres. Mais son professeur de littérature française, Robert Garrick, catholique fervent mais surtout socialiste et humaniste très engagé, l'impressionne beaucoup. Il dirige un mouvement, les équipes sociales, qui se propose de répandre la culture dans les couches populaires. Et grâce à son cousin Jacques, dont elle est secrètement amoureuse, et qui se trouve être un des équipiers de Garrick, sa culture littéraire va s'élargir. Elle écrit donc dans les mémoires d'une jeune fille rangée.
Je trouvais sur sa table une dizaine de volumes aux fraîches couleurs de bonbons acidulés, des Monterland vert pistache, un Cocteau rouge framboise, des Barrès jaunes citron, des Claudel, des Valérie d'une blancheur neigeuse, rehaussées d'écarlate. À travers le papier transparent, je lus et je relus les titres. Le Potomac, les nourritures terrestres, l'annonce faite à Marie, le paradis à l'ombre des épées, du sang, de la volupté et de la mort. Bien des livres m'avaient déjà passé par les mains, mais ceux-ci n'appartenaient pas à l'espèce commune. J'en attendais d'extraordinaires révélations. Soudain, des hommes de chair et d'os me parlaient, de bouche à oreille, d'eux-mêmes et de moi. Ils exprimaient des aspirations, des révoltes que je n'avais pas su me formuler, mais que je reconnaissais. J'écumais la bibliothèque Sainte-Geneviève. Je lisais Guide, Claudel, James, la tête en feu, les tempes battantes, étouffant d'émotions.
Très bien. Alors, au cours de sa première année à l'Université de Paris, elle valide les certificats de mathématiques générales, littérature du moins, et latin. L'année suivante, cours de philo, et donc en juin 2027, elle valide le certificat de philosophie générale. Elle obtient finalement la licence S-Lettres mention philosophie au printemps 1928, après avoir en plus validé des certificats d'éthique et de psychologie. Et elle entame alors la rédaction d'un mémoire sur Leibniz pour le diplôme d'études supérieures. À la faculté des lettres de l'Université de Paris, elle va rencontrer d'autres jeunes intellectuels, évidemment, dont Jean-Paul Sartre, qu'elle regarde comme un génie. Dès cette époque, se noue entre eux une relation qui deviendra mythique, longtemps supposée libre et égalitaire. Elle sera son amour nécessaire entre guillemets, hein, si nous citons, par rapport aux amours contingences qu'ils seront amenés à connaître l'un et l'autre. Alors, Simone de Beauvoir est reçue deuxième au concours d'agrégation de philosophie en 1929, juste derrière Jean-Paul Sartre.
Bon. La vie est bien faite.
La vie est bien faite pour les hommes. La mort de son amie d'enfance Zaza, quelques mois plus tard, va complètement la déprimer. Et ça marquera définitivement pour elle la fin d'un chapitre de sa vie. Enfin, il y a quelque chose...
Oui, là, qui s'est un peu cassé pour elle. Là. Voilà, c'était... Ouais. C'est terrible.
Alors, on va écouter quelque chose là,
voilà, on va écouter une petite chanson. Mm-hmm. Donc, Marie-Paul Bell, qui est décédée il n'y a pas longtemps. Alors, c'était à la fois pour lui rendre un peu un petit hommage. Voilà. Et donc, alors, c'est la chanson de La Parisienne. Ce sont des paroles de Françoise Malé-Joris, qui est aussi elle-même écrivaine. Voilà.
Lorsque je suis arrivée dans la capitale, j'aurais voulu devenir une femme fatale. Mais je ne buvais pas, je ne me droguais pas et n'avais aucun complexe. Je suis beaucoup trop normale, ça me vexe. Je ne suis pas parisienne, ça me gêne, ça me gêne. Je ne suis pas dans le vent, c'est navrant, c'est navrant. Aucune bizarrerie, ça m'ennuie, pas la moindre affectation. Je ne suis pas dans le ton, je ne suis pas végétarienne, ça me gêne, ça me gêne. Je ne suis pas caractérienne, ça me met dans l'embarras. Je ne suis pas cinéphile, c'est débile, c'est débile. Je ne suis pas MLS, je sens qu'on m'en fait grief, en fait grief. Bientôt, j'ai fait connaissance d'un groupe d'amis vivant en communauté dans le même lit. Comme je ne buvais pas, je ne me droguais pas et n'avais aucun complexe, je crois qu'ils en sont restés tout perplexes. Je ne suis pas nymphomane, on me blâme, je ne suis pas travesti, ça me nuit, ça me nuit. Je ne suis pas masochiste, ça existe, pour réussir mon destin, je vais voir le médecin. Je ne suis pas schizophrène, ça me gêne, je ne suis pas hystérique, ça se complique, oh dis le psychanalyste, que c'est triste, je lui dis, je désespère, je n'ai pas de goût pervers, de goût pervers. Me dit le docteur en se rhabillant. Après ce premier essai, c'est encourageant. Si vous ne buvez pas, vous ne vous droguez pas et n'avez aucun complexe, vous avez une obsession, c'est le sexe. Depuis je suis à la mode, je me rôde dans les lits de Saint-Germain. C'est divin, je fais partie de l'élite. Ça va vite, et je me donne avec joie tout en faisant du yoga. Je vois les films d'épouvante, je m'en vante en serrant très fort la main du voisin, me sachant original. Je cavale, j'assume ma libido. Je vais draguer en vélo. Maintenant je suis parisienne, je me surmène et je connais la détresse. Enfin à l'écologie, je m'initie et loin de la pollution, je vais tendre mes moutons et loin de la pollution, je vais tendre mes moutons et loin de la pollution, je vais tendre mes moutons, mes moutons, mes moutons, mes moutons.
Voilà. Bon, elle est très connue comme chanson, mais bon, voilà. C'était bien de la réécouter un petit peu.
Ouais, puis 1976, je trouve qu'on peut encore l'écouter.
Oui. Bon. Et puis pour l'émancipation de, de Simone de Beauvoir, là, voilà, qui se sentait des ailes. Donc, alors, suite à l'obtention de son agrégation en 1929, elle va devenir donc professeure de philosophie. Elle est surnommée Castor par Herbeau, René Maheu, dans ses mémoires d'une jeune fille rangée, car il trouve que Beauvoir est prof de l'anglais, proche de l'anglais beaver, qui veut dire castor, et que comme elle, les castors vont en bande et ont l'esprit constructeur. Ce surnom est ensuite repris et conservé par Jean-Paul Sartre, qui publie à l'édition Blanche chez Gallimard « Lettres aux castors », un recueil de lettres qu'il a écrites à celle qui a été son charmant castor. Alors, entre 1929 et 1931, elle est professeure agrégée et donne des cours au lycée Victor Duruy à Paris, ce qu'elle vit comme une libération. Elle se trouve ensuite nommée à Marseille, au lycée Montgrand. Et la perspective de quitter Sartre, lui-même nommé au Havre en mars 31, la jette dans l'angoisse. Et ce dernier lui propose même de l'épouser afin d'obtenir un poste dans le même lycée. Bien que viscéralement attachée à Sartre, elle rejette cette proposition. Et elle écrit dans La force de l'âge.
Je dois dire que pas un instant je ne fus tentée de donner suite à sa suggestion. Le mariage multiplie par deux les obligations familiales et toutes les corvées sociales. En modifiant nos rapports avec autrui, il eut fatalement altéré ceux qui existaient entre nous. Le souci de préserver ma propre indépendance, ajoute-t-elle cependant, ne pesa pas lourd. Il m'eût paru artificiel de chercher dans l'absence une liberté que je ne pouvais sincèrement retrouver que dans ma tête et mon cœur.
Alors,
tout le monde n'est pas prêt à se marier. Hein.
Non. L'année où elle enseigne à Marseille, elle se découvre une passion pour la randonnée. Mais ça, je peux comprendre. Il y a quand même des belles randonnées à faire dans le coin de Marseille. Et elle ne cesse... dans les années qui suivent, d'arpenter les chemins de France, souvent seule, et dès qu'elle en a l'occasion. Je vous propose d'écouter un petit extrait du tome 2 de La force de l'âge.
Sous le ciel bleu, des tulles ensoleillées, des trous d'ombre, des platanes couleur d'automne, au loin, des collines et le bleu de la mer. Une rumeur montait de la ville avec une odeur d'herbe brûlée, et des gens allaient et venaient au creux des rues noires. Marseille. J'étais là, seule, les mains vides, séparée de mon passé et de tout ce que j'aimais. Et je regardais la grande cité inconnue, où j'allais sans secours, tailler au jour le jour, ma vie. Ici, je n'existais pour personne.
L'année suivante, elle arrive à se rapprocher de Sartre, puisqu'elle obtient un poste... au lycée Jeanne d'Arc à Rouen, où elle fait la connaissance de Colette Audry, enseignante dans le même lycée. Alors, elle entretient des relations amoureuses avec certaines de ses élèves mineures, mais réfute jusqu'à sa mort toute idée de bisexualité, sujet qui fait l'objet de controverses entre ses dernières biographes. Le pacte la liant à Sartre lui permettant de connaître des amours contingentes...
c'est quand même...
on est dans une zone un peu discutable. Bon, c'était à une époque particulière. Il n'y a pas eu de suite vraiment, mais... Enfin, bon, elle a fini par se faire virer, mais...
quand même.
Mais bon, ce serait maintenant, je pense que ça poserait d'autres questions.
Ça irait beaucoup plus loin.
Voilà. Alors, elle présente ses élèves à Sartre... qui forme avec lui, selon un contrat pervers comme le qualifie Marie-Jo Bonnet, des trios, voire des quatuors amoureux. Elle se lie également avec un élève de Sartre, le petit Bost, futur mari d'Olga Kozokiewicz, pour laquelle Sartre s'est pris entre-temps de passion non réciproque. Enfin bref, c'est un peu...
C'est
particulier. L'amitié de ce groupe d'amis surnommé la petite famille ou encore les petits camarades reste indéfectible jusqu'à la mort de chacun d'entre eux, malgré quand même des petites brouilles, voire
des conflits.
voilà.
Plus important.
Ça n'avait pas l'air si simple.
Voilà, c'est ça. Voilà. Après, de ce qu'elle en dit dans ses écrits, ça paraît beaucoup plus
comme si
tout se passait très bien, mais en fait, c'était pas.
C'était un peu plus complexe que ça.
Que ça. Alors, je vous propose d'écouter Boris Vian et l'orchestre de Claude Luther dans la chanson de Charles Trenet, hein, « Que reste-t-il de nos amours ?» C'est un enregistrement d'époque, hein. Alors c'est pas le
ça,
son.
Ça grésille un petit
est
peu.
Et pas terrible, voilà. Et donc dans les caves de Saint-Germain-des-Prés, voilà, les prises de son n'étaient pas forcément au top. Alors avec Sartre, elle va voyager beaucoup aussi en Europe, notamment aussi à bicyclette. Hein, ils vont faire beaucoup, beaucoup de vélo.
Bicyclette.
Dans des conditions très frugales. Et puis ils vont visiter comme ça chaque été un nouveau pays. Alors ils vont aller en Espagne, en Italie, en Grèce, en Allemagne, au Maroc aussi. Mais à côté de cela, avant d'être finalement tous les deux mutés à Paris, leur vie sociale reste quand même très parisienne. Et c'est là qu'ils se retrouvent souvent, ensemble avec leurs amis. Ils vont donc au théâtre, suivent assidûment l'actualité littéraire et cinématographique. En 1936, elle va enfin obtenir un poste à Paris. Elle enseigne au lycée Molière entre 1936 et 1939. Elle en est suspendue d'ailleurs à la suite de sa liaison avec Bianca Binnenfeld, l'une de ses élèves âgée de 16 ans, fils d'un juif polonais réfugié en France. avec ses deux filles et dont la mère est gravement malade. Alors son premier livre, Primauté du spirituel, écrit entre 35 et 37, est refusé par Gallimard et Grasset. Il paraîtra beaucoup plus tard, hein, en 1979. Un second livre, son roman, L'invité, est publié en 1943 par Gaston Gallimard, en plein Paris occupé. Il y décrit, à travers des personnages imaginaires, la relation entre Jean-Paul Sartre, Xavier et elle-même, tout en dévoilant une réflexion philosophique concernant la lutte entre les consciences et les possibilités de la réciprocité. Cette Xavier, c'est une autre jeune fille mineure polonaise, Olga Kozakiewski, que Simone de Beauvoir avait séduite avant Bianca Benfield et livrée à Jean-Paul Sartre. Alors, Simone de Beauvoir est à nouveau suspendue le 17 juin 1943 à la suite d'une plainte pour incitation de mineurs à la débauche déposée en décembre 1941 par la mère d'une autre de ses élèves, Nathalie Sorokine. La plainte aboutit à un non-lieu, mais Beauvoir est définitivement révoquée de l'éducation nationale. Bon, quand même, hein, elle persiste dans ses... Dans ses façons de faire avec ses élèves. Donc Simone de Beauvoir décrit dans ses mémoires une relation de simple amitié avec cet élève. Elle écrit en outre que l'accusation de détournement de mineur, mensongère, est une vengeance de la mère de cet élève à la suite du refus que lui aurait opposé Simone de Beauvoir d'user de son influence auprès de sa fille pour lui faire accepter un mariage avec un parti avantageux. Pourtant, la nature charnelle des relations qu'elle entretenait avec Nathalie ne fait plus aucun doute aujourd'hui. Le 2 septembre 1939, le lendemain de l'invasion allemande de la Pologne, Simone accompagne Jean-Paul à la gare de l'Est. Il doit rejoindre le service de météorologie au camp d'aviation militaire d'Essey-les-Nancy. Dans son journal intime, Simone note
« La gare est presque vide. Il y a un train à 6h24. » Mais il semble que Sartre soit seul pour le prendre. Finalement, il prendra celui de 7h50. On pince un moment à une terrasse dans le petit matin doux. Sartre répète qu'il n'est pas lui, en danger. C'est juste une séparation. On se parle encore à la gare, séparé par une gaine. Puis il s'en va. Son dos, sa nuque disparaissent. Je m'en vais vite et je marche. Un si beau matin d'automne. On dirait une rentrée de vacances heureuse. Le boulevard Réaumur, les Halles, l'odeur des carottes et des choux.
Voilà, donc
oui.
L'évocation des odeurs de Paris.
Alors, elle va travailler après, en 1943, elle va travailler pour Radio Vichy. Radio Paris, quoi. Enfin, voilà. Mais alors c'est quelque chose qui est un petit peu critiqué aussi, hein, le fait qu'elle ait participé. Bah oui, alors, bon, elle faisait des émissions consacrées à la musique. C'était un peu indépendant de, oui, de la propagande et tout ça. Et puis bon, chacun trouve un moyen aussi certainement de subvenir à ses besoins. Mais bon, voilà, c'était quand même Radio Vichy, quoi. Elle avait été pistonnée par René Delange, patron de Comédia, appuyé par Jean-Paul Sartre. Toujours en 1943, elle va s'installer avec Sartre à l'hôtel de la Louisiane, à Saint-Germain-des-Prés, mais elle a sa propre chambre. Elle écrira « Jamais aucun de mes abris ne s'était tant approché de mes rêves. J'envisageais d'y rester jusqu'à la fin de mes jours. » Elle sera réintégrée dans l'éducation nationale à la Libération par arrêté du 30 juillet 1945, mais en fait, elle n'a plus enseigné.
Elle a plus, voilà, parce que bon, elle ne le souhaitait pas, et puis,
ouais, puis
je pense
bon,
que oui, c'est aussi bien.
Il était temps de se faire oublier, je pense, quand même.
Alors, je vous propose une chanson de Juliette Gréco, qui est la muse, hein, de Saint-Germain-des-Prés. Donc, c'est une... chanson qui a été écrite par Léo Ferré et Peter Hawkins et qui s'intitule « À Saint-Germain-des-Prés ».
Maintenant que tu vis à l'autre bout de Paris, quand tu veux changer d'âge, tu t'offres un long voyage, tu viens me dire bonjour au coin de la rue du Four, tu viens me visiter à Saint-Germain-des-Prés. près, à Saint-Germain-des-Prés. Plus d'appareil demain, plus d'appareil midi, il n'y a qu'aujourd'hui quand je te reverrai. À Saint-Germain-des-Prés, ce ne sera plus toi, ce ne sera plus moi, il n'y a plus d'autre fois. Tu me dis comme tout change, les rues te semblent étranges, même les cafés crèmes n'ont plus le goût que tu aimes. C'est que tu es un autre et que je suis une autre. Nous sommes étrangers à Saint-Germain-des-Prés. Il n'y a plus d'après à Saint-Germain-des-Prés. Plus d'après demain, plus d'après midi, il n'y a qu'aujourd'hui quand à Saint-Germain-des-Prés. Ce ne sera plus toi, ce ne sera plus moi, il n'y a plus d'autre foi. À vivre au jour le jour, le moindre des amours prenait dans ses ruelles des allures éternelles. Mais à la nuit, c'était bientôt fini. Voilà l'éternité de Saint-Germain-des-Prés. Il n'y a plus d'après à Saint-Germain-des-Prés. Plus d'après demain, plus d'après midi, il n'y a qu'aujourd'hui quand je te reverrai. À Saint-Germain-des-Prés, ce ne sera plus toi, ce ne sera plus moi, il n'y a plus d'autre foi.
Simone de Beauvoir, c'est donc une femme de lettres engagée, on l'aura bien compris, et donc avec Sartre, Raymond Aron, Michel Léris, Maurice Merleau-Ponty, Boris Vian et d'autres intellectuels de gauche, elle va fonder la revue Les Temps modernes, qui a pour but de faire connaître l'existentialisme à travers la littérature contemporaine. Voici comment Boris Vian parle de Simone de Beauvoir dans son manuel de Saint-Germain-des-Prés, en 1950.
Intelligence prodigieuse dont le seul défaut est d'être trop organisée. Ainsi l'a décrit Charles Blanchard dans le récent dictionnaire des contemporains de Jean Galtier-Boissière. Il a tort. Nulle intelligence ne saurait être trop bien organisée. La preuve en est que cette organisation certaine ne nuit en rien au charme de sa propriétaire. Physiquement, Madame de Beauvoir a le gros mérite de s'écarter du type femme de lettres, à mine pointue et teint triste. Jeune, vive, une voix plaisamment éraillée, le cheveu noir et l'œil de Delft, le visage clair et le soulier plat, elle aime également le voyage et la discussion. Les 40 km à pied dans la journée et les 40 heures de discussion quand la discussion l'intéresse. Elle a écrit de fort savantes études, Le deuxième sexe, Pour une morale de l'ambiguïté, Pyrrhus et Cinéas, etc. Et des romans nombreux, Tous les hommes sont mortels, L'invité, Le sang des autres. Un journal de voyage, L'Amérique au jour le jour, une pièce, Les bouches inutiles. Sur Simone de Beauvoir, agrégée de philosophie depuis 1929, on a raconté des tas de salades, comme sur Sartre d'ailleurs. Je ne pense pas, quant à moi, qu'on puisse expédier leur philosophie en 20 lignes. Je rappelle seulement que le lancement récent de Saint-Germain-des-Prés est en grande partie dû à leur renom littéraire et que si les tauliers du coin avaient 3 sous d'honnêteté, Simone de Beauvoir et Sartre devraient consommer gratis dans tous les bistrots qu'ils ont lancés. N'est-ce pas, Castor, que c'est une bonne idée ?
Mais qu'est-ce que l'existentialisme? Comme tous les autres courants de pensée, l'existentialisme s'efforce de donner une réponse à la grande question philosophique : quel est le sens de la vie ? Cette vision, dans laquelle il n'est rien de réel et efficace, si ce n'est le doute, trouve un profond écho dans l'atmosphère de l'après-guerre, habité par un sentiment quand même de culpabilité envers la barbarie nazie. Il n'est pas étonnant que les existentialistes, accompagnés par leur aura transgressive, aient rassemblé autour d'eux un large groupe d'admirateurs. Dans les bars de Saint-Germain-des-Prés, le Flore, les Deux Magots, et dans les caves de jazz, Simone rencontre une foule de jeunes qui l'admirent pour tout ce qu'elle représente, la liberté, l'engagement intellectuel et l'art. Mais les journalistes font leur chou gras des anecdotes sur le milieu existentialiste. Et voici ce qu'en pense Simone.
Je m'étais habituée à ma peau d'écrivain, et il ne m'arrivait plus guère de regarder ce personnage neuf en me disant « c'est moi ». Mais ça m'amusait de voir mon nom dans les journaux, et pendant quelque temps, le bruit fit autour de nous « mon de figure bien parisienne » me divertir. Par bien des côtés aussi, il me déplaisait. La susceptibilité ne m'étouffait pas. Qu'on m'appelât « la grande Sartreuse » ou « Notre-Dame de Sartre », j'en riais. Mais certains regards masculins me blessaient. Ils offraient une complicité crapuleuse à la femme existentialiste, donc dévoyée que j'étais.
Ring a them bells, ring a them bells. We is gwine, don't know where. All we know is it's up there. Somehow we gotta climb that stair. Ring a them, ring a them bells.
Children, gather around, ye chillin', and we will lose that evil spirit called the voodoo. Woody-a-bobby-bobby, nothing but trouble if he's found you, children. But you can chase that hoodoo with the dance that you do. Just like a rebel, send to the devil. Clap your hands, slap your thigh. Hallelujah, hallelujah. Everybody come along and join a jubilee. So ring a damn bell, ring a damn bell.
Why, we is the two most friendly vibrations you ever see.
Hey, diddle, the cat and the fiddle.
The dishman, the waywork, the spoon. Mrs. Tallahassee, did you know why a chicken crosses the road?
No, why does a chicken cross the road?
Why, to get to the second floor, woman.
Oh, man, you is a genius. Roses are red, the violets are blue, the dresses has got to be showed. So, let's get this show on the road. Your hands, slap your thigh, give me that beat, boy, boy, give me that, give me that, give me that, give me that crazy knockout beat. You gotta move out, do that, do that, if you wanna get to the promised land, you gotta clap your hands.
We'll be right back. some, give me some, give me some Dixieland. When you hear that Dixieland, you gotta clap your hands. Clap your hands.
Ça, c'était un extrait de Funny Face de Stanley Donen avec Fred Astaire, là, et Kay Thompson qui chante. Alors, dans le film, c'est Audrey Hepburn qui est une bibliothécaire. Elle est repérée par Fred Astaire, qui est un photographe de mode, et elle se laisse persuader d'aller à Paris pour un défilé de mode, car elle pourra ainsi rencontrer le maître de l'existentialisme dans les caves de Saint-Germain-des-Prés. Donc, évidemment, c'est une jolie satire hein, au niveau de, voilà, de ce mouvement. Mais bon, c'est un film sympa. Voilà. Et quant à Simone, elle continue son œuvre personnelle. Hein, après plusieurs romans et essais où elle parle de son engagement pour le communisme, l'athéisme et l'existentialisme, elle obtient son indépendance financière et va se consacrer totalement à son métier d'écrivaine. Elle voyage dans de nombreux pays, aux États-Unis, en Chine, en Russie, à Cuba, etc., où elle fait la connaissance d'autres personnes communistes telles que Fidel Castro, Che Guevara, Mao Zedong ou encore Richard Wright.
Quel beau monde!
Alors, Beauvoir a rencontré l'écrivain américain Nelson Algren à Chicago en 1947, alors qu'elle voyageait à travers les États-Unis pendant 4 mois en utilisant divers moyens de transport, automobile, train et Greyhound. Elle y engage avec lui une relation passionnée qui dure plus de 15 ans et elle va lui envoyer plus de 300 lettres. Elle tient un journal détaillé du voyage qui est publié en France en 1948 sous le titre « De l'Amérique au jour le jour ». Là, je vous propose d'écouter une lettre qu'elle adresse donc à Nelson Algren, une lettre qui date du 23 février 1948.
Lundi 23 février 1948. Mon cher provincial, Paris tout enneigé était merveilleux hier soir. Saint-Germain-des-Prés prenait des airs de petits villages aux calmes rues blanches. Les gros flocons y tombaient gaiement. L'éclairage jaune projetait d'immenses ombres. Hélas, c'est à moitié fondu, noir et sale maintenant. Le froid se supporte puisqu'on peut s'habiller chaudement et se chauffer. Rien de commun avec les terribles hivers de guerre où, j'en garde un vif souvenir, je ne quittais pas pour dormir mon pantalon de ski en laine, où nous traînions des chaussures percées et où partout régnait un froid de loup. Mon chéri, nous sommes le 23 février. Il y a un an exactement, je faisais votre connaissance. Alors, aussi il neigeait sur Chicago, je glissais sur le sol gelé et vous teniez mon bras le long du métro aérien. Vous rappelez-vous comme vous avez sournoisement tenté de me maintenir hors de votre vie en prétendant que j'avais composé un faux numéro au téléphone ? Mon acharnement m'a sauvée. Près de vous, je me suis sentie confortable, paisible, en confiance, sans soupçonner le moins du monde que vous étiez en train de me piéger traîtreusement, au point que je vous suivrai avec soumission jusqu'au lointain Guatemala. Je ne me doutais pas que du nouveau surviendrait dans ma vie. Je me sentais trop âgée. Si peu de choses valent réellement la peine qu'on s'en tracasse, et voilà que vous m'avez donné une seconde jeunesse. Un merveilleux amour provincial devenu international. Tout s'est si admirablement arrangé, je m'en émerveille encore. Vous m'effrayez même un peu. Si vous êtes si astucieux, vous pourriez également me rendre très malheureuse. Peut-être la prudence exigerait-elle de ne pas courir cette chance, de ne pas retourner en Amérique. Je me pose la question. Mon chéri, il est minuit et la seule question que je me pose, la voici. Comment patienterai-je 2 mois encore avant de vous embrasser ? Quoi ? J'ai vécu 39 ans sans que dans mes nuits vous ayez de place ? Ça paraissait facile. Pourquoi est-ce devenu si difficile ? Comprenez-vous ça ? Moi pas. Tout ce que je sais, c'est que vous me manquez d'un manque infernal. Pas exactement infernal, puisqu'en enfer aucun espoir ne subsiste. Or, je n'espère pas. Je sais que vous, vous étendrez près de moi à nouveau. Nelson, j'ai un tel désir de vous. Je vous aime, mon mari à moi. J'ai eu ce matin votre lettre, puisque vous semblez vouloir à tout prix savoir quand votre grenouille vous tombera entre les mains, Disons qu'il y a de fortes chances pour que ce soit vers le 25 avril. Mon amie californienne m'assure qu'elle ne sera pas trop déçue si je ne la vois qu'en octobre. Alors je vais la laisser tomber, prendre 10 jours à New York pour récolter de l'argent et vous rejoindre. Je garde l'appréhension d'un changement et répugne à fixer des dates, mais en gros, ça se décide. L'année prochaine, quand à votre tour vous viendrez me voir et que je vous demanderai quand je dois réserver des places pour Alger, vous verrez, vous déclarerez l'air désinvolte, j'arriverai quand je pourrai, soyez prête à me recevoir. Les photos pour mon passeport attendent, j'ai commandé divers habits pour flamber d'élégance. À dire la vérité, ces robes sont surtout destinées à l'Amérique du Sud. Pour vous, j'en ai prévu une que j'adore, non pas parce que je la porterai, mais parce que je l'ôterai. J'espère qu'elle vous plaira pour une robe de déshabillage. Oui, je connais Ebony, dont j'ai acheté un numéro à Harlem avec Wright l'an dernier, et que j'avais déjà parcouru avant à Paris. Mais Rowe y était photographié tout riant. J'écoutais l'orchestre de Don Redman, folle de joie de partir pour l'Amérique. Ignorante de ce que ça signifiait pour moi, du nombre de nuits passées à soupirer et languir qui m'attendaient parce que je vous aurais rencontré. Mercredi, j'ai rendez-vous avec un érudit au musée ethnographique. Nous organiserons un splendide voyage, Guatemala-Mexique. Rien de notable, neige et ciel bleu, vie laborieuse de grenouille. À la bibliothèque, je m'informe sur les multiples façons dont vous, ignobles hommes, nous avez opprimés, nous pauvres créatures féminines. Au revoir, baiser d'amour sans fin, mon bien-aimé, votre Simone.
Aïe, aïe, aïe.
C'est beau, hein.
Ah là là, où est son indépendance? Bon, enfin bref, de castor, elle est devenue grenouille, en fait.
Voilà, bah oui. Mais
elle est multiforme.
Bah oui, mais pour les Anglais...
Bon, en 1949, elle obtient la consécration avec le deuxième sexe. Dès la première semaine, 22 000 exemplaires vendus. Ça fait scandale, le Vatican, la pointe du doigt. François Mauriac écrit au temps moderne, « À présent, je sais tout sur le vagin de votre patronne. Il y a des avis contradictoires, Armand Hogg est contre, Francine Bloch pour, dans la revue La Nef. » On le traduit en plusieurs langues, il se vend à 1 million d'exemplaires aux États-Unis et plein de théoriciennes du Woman's Lib s'en inspirent. Enfin, oui, voilà, un succès.
Bon, alors je vous propose une petite interview de Simone de Beauvoir.
Simone de Beauvoir, le deuxième sexe, si on devait le résumer, ce qui est évidemment très difficile, pourrait peut-être... tourner autour de cette idée qui a été souvent reprise depuis, mais que j'aimerais bien vous voir expliquer. On ne naît pas femme, on le devient.
Oui, c'est en somme la formule qui résume l'ensemble de mes thèses. Et ce qu'elle signifie est très simple, c'est qu'être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique, qui définissent la femme en tant que telle. C'est une histoire qui l'a faite, d'abord l'histoire de la civilisation, qui aboutit à son statut actuel, et d'autre part, pour chaque femme particulière, c'est l'histoire de sa vie, en particulier c'est l'histoire de son enfance, qui la détermine comme femme, qui crée en elle quelque chose qui n'est pas du tout une donnée, une essence, qui crée en elle ce qu'on a appelé quelquefois l'éternel féminin, la féminité. Et plus les études psychologiques sur les enfants s'approfondissent, plus il est sensible, plus on voit avec évidence que vraiment le petit bébé féminin est fabriqué pour devenir une femme. Il y a là-dessus un excellent livre qu'une Italienne vient d'écrire, Elena Bellotti, ça s'appelle « Du côté des petites filles ». Et on montre comment déjà, bien avant que l'enfant ne soit même conscient, on inscrit dans son corps, dans la manière de le faire téter, de le porter, de le bercer, etc., etc., on inscrit dans son corps ce qui, plus tard, apparaîtra peut-être comme un destin.
Voilà. Eh bien, écoutez, en tout cas, elle est sûre d'elle quand elle parle. Beauvoir devient la figure de proue du féminisme et elle décrit une société donc, qui maintient la femme dans une situation d'infériorité. Elle est en totale rupture avec l'essentialisme. Son analyse de la condition féminine à travers les mythes, les civilisations, les religions, l'anatomie, les traditions, fait scandale, et tout particulièrement le chapitre où elle parle de la maternité et de l'avortement, qui était alors assimilé à un homicide. Hein. C'était même complètement interdit. Quant au mariage, elle le considère comme une institution bourgeoise aussi répugnante que la prostitution, lorsque la femme est sous la domination de son mari et ne peut en échapper. Selon Stéphane Lowe, Beauvoir proposa que le rapport entre les sexes biologiques et les constructions genrées de la société est délibérément confus pour la femme, ce qui lui rend difficile de sortir d'un tel déterminisme et ne sert que la société dominée par l'homme avec des stéréotypes sociaux entraînant la femme loin de ses aspirations. Bref, en 1952, elle obtient son permis de conduire. À 44 ans, c'est une époque où peu de femmes conduisaient. Hein. Sa liaison avec Claude Lanzmann débute en juillet. Lui doit prendre un avion pour Israël le lendemain et elle partir en Italie. Mais ils passent la soirée ensemble. Elle en informe Nelson Algren dans une lettre du 3 août, lui demandant de continuer à lui écrire en poste restante à Bari, en Italie. Ancien résistant juif et âgé de 26 ans, Lanzmann est resté proche du Parti communiste français, ce qui touche une corde sensible chez Beauvoir et Sartre. En effet, à cette période, il se rapproche du marxisme, avec la fin du régime stalinien consécutive à la mort de Staline, début 1953. Au temps moderne, nous nous rapprochons des communistes davantage encore, sans les aimer bien entendu, mais avec la conviction qu'il faut être avec eux, contre elle, écrit-elle le 2 juillet. Alors, Simone avait déjà salué l'article de Claude Lanzmann dans Les Temps modernes d'avril 1952, où il démontait les mécanismes par lesquels la presse peut mentir impunément et ainsi commettre le pire des crimes et même un attentat contre sa propre essence. En 1953, d'Amsterdam, elle écrit la première de ses lettres à Lanzmann. Leur amour est aussi bien intellectuel que charnel. C'est le seul homme avec qui elle a accepté de vivre et leur concubinage dure 7 ans. Le 6 décembre 1954, le 51e prix Goncourt est décerné à Simone de Beauvoir pour Les Mandarins. Elle devient l'un des auteurs les plus lus dans le monde. Ce roman met en lumière sa relation avec Nelson Algren, toujours à travers des personnages imaginaires, et traite aussi de l'après-guerre. À partir de 1958, elle entreprend son autobiographie, « Mémoire d'une jeune fille rangée », racontant malgré sa condition de femme, les distances peu à peu prises avec son milieu d'origine rempli de préjugés. Elle y décrit aussi sa relation avec Sartre, la qualifiant de « totale réussite ». Même s'ils ne sont plus un couple au sens sexuel du terme, et ce, depuis longtemps, elle laisse entendre le contraire à ses lecteurs.
Voilà, je crois qu'elle
elle arrange un peu les choses
beaucoup,
à sa façon.
Voilà, enjoliver les choses, enfin, parce qu'elle, de ce qu'elle voulait qu'on pense d'elle, retrace d'elle, voilà.
Une petite chanson maintenant.
Voilà, alors on va peut-être pas la mettre en entier parce que je vois que l'heure
tourne. Ah là 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 là.
Alors on vous met juste un petit refrain de Boris Vian. Ah, pardon. Un petit refrain de Boris Vian.
Je suis snob. C'est vraiment le seul défaut que je gobe. Ça demande des mois de turbin, c'est une vie de galérien. Mais quand je sors avec Hildegarde, c'est toujours moi qu'on regarde. Je suis snob, foutrement snob. Tous mes amis le sont. On est snob et c'est bon. Chemise d'organdi, chaussures de zébu, cravate d'Italie et méchant complet vermoulu. Un rubis au doigt, deux pieds, trois celui-là, les ongles tout noirs et un très joli petit mouchoir. Je vais au cinéma voir des films suédois et j'entre au bistrot pour boire du whisky à gogo. J'ai pas mal au foie.
Donc voilà, on va couper le sifflet à Boris Vian.
Dommage.
Alors en 1960, elle signe le Manifeste des 121, qui est une déclaration sur le droit à l'insoumission dans la guerre d'Algérie. Et en 1964, elle publie Une mort très douce, qui retrace la mort de sa mère. D'après Sartre, d'ailleurs, c'est son meilleur écrit. Bah, peut-être le plus sincère, sans qu'elle ait enjolivé ou pas les choses. Quoi, voilà. Et donc pendant cette période, elle est soutenue par une jeune fille dont elle fait la connaissance à la même époque, Sylvie Lebon, qui est une jeune étudiante en philosophie. Et la relation qui va unir les deux femmes est assez obscure. Hein. On parle de relation mère-fille, de relation amicale ou amoureuse. Bon, c'est peut-être un peu voilà, tout ça à la fois. Elle va déclarer que cette relation était semblable à celle qui l'unissait à son amie Zaza 50 ans plus tôt. Elle devient quand même sa fille adoptive et héritière de son œuvre littéraire et de l'ensemble de ses biens. Alors, l'influence de Beauvoir, associée à Gisèle Halimi, a été décisive pour obtenir la reconnaissance des tortures infligées aux femmes lors de la guerre d'Algérie et le droit à l'avortement. Elle rédige le manifeste des 343, publié en 1971 par le Nouvel Observateur. Avec Gisèle Halimi, elle a cofondé le mouvement Choisir, dont le rôle a été déterminant pour la législation de l'interruption volontaire de grossesse. Et tout au long de sa vie, elle a étudié le monde dans lequel elle vivait, tout en visitant usines et institutions à la rencontre d'ouvrières ou de hauts dirigeants politiques. Alors, le manifeste qui était rédigé par Simone de Beauvoir commence par ces phrases.
1 million de femmes se font avorter chaque année en France. Elles le font dans des conditions dangereuses en raison de la clandestinité à laquelle elles sont condamnées, alors que cette opération, pratiquée sous contrôle médical et des plus simples, ont fait le silence sur ces millions de femmes. Je déclare que je suis l'une d'elles. Je déclare avoir avorté. De même que nous réclamons le libre accès aux moyens anticonceptionnels, nous réclamons l'avortement libre.
Alors, suivent 343 signatures, notamment celles de personnalités. Alors, une note en bas de page indique que parmi les signataires, des militantes du mouvement de libération des femmes réclament l'avortement libre et gratuit. Simone If, alors vice-présidente du planning familial, se mobilise fortement à titre personnel pour obtenir un maximum de signatures de célébrités, comme les actrices Catherine Deneuve, Jeanne Moreau, Delphine Seyrig, Stéphane Audran, ou encore les écrivaines Marguerite Duras, Françoise Sagan, Catherine Claude, la cinéaste Agnès Varda, ou encore l'avocate Gisèle Halimi, et bien d'autres. Alors, l'idée du manifeste a été lancée par Jean Moreau, chef du service de documentation du Nouvel Observateur, lors d'une discussion animée avec la journaliste Nicole Mushkin, un soir de juin 70, dans la salle de rédaction du quotidien. L'idée provient, en fait, du manifeste des 121, publié en 1960, durant la guerre d'Algérie. Alors, la semaine suivant l'apparition du manifeste, l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo a fait sa une du 12 avril 1971 avec la question « Qui a engrossé les 343 salopes du manifeste sur l'avortement ?» Et une caricature signée par le dessinateur Cabu de Michel Debré qui répond « C'était pour la France !» Val à cette pétition d'être appelé familièrement le manifeste... Pardon. Le manifeste des 343 salopes.
Alors, en 1974, Valéry Giscard d'Estaing, donc le président de la République alors, charge sa ministre de la Santé, Simone Veil, de préparer la loi sur la légalisation de l'avortement, loi adoptée le 29 novembre 1974. Donc, une loi assez décisive. Simone de Beauvoir, féministe toujours radicale, participe en 1977 en tant que directrice de la rédaction à la création de la revue Questions féministes, principal organe de publication du courant féministe matérialiste. Puis à la dissolution de ce comité du comité de rédaction, elle reprend le poste de directrice pour la revue Nouvelles Questions féministes qui se crée en 1981, poste qu'elle gardera jusqu'à sa mort. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'en 77, enfin, c'est quand même, je pense qu'il faut quand même en parler, pour être honnête. Elle a signé une lettre ouverte, rédigée par l'écrivain Gabriel Matzneff, qui quand même depuis a eu de nombreux soucis, puisqu'on a beaucoup parlé de ses écrits pédophiles et de sa pédophilie, semble-t-il. En tout cas, Simone de Beauvoir a signé cette lettre ouverte qui avait été publiée dans Le Monde et qui demandait la dépénalisation de certaines relations sexuelles consenties entre adultes et mineurs de moins de 15 ans. Donc voilà, c'était ça l'époque, quoi.
Hein, c'était bon.
Donc dans les signataires, on avait quand même d'autres gens, Sartre, Aragon, Barthes, Roland Barthes, Deleuze, Jacques Lang, Kouchner. Oui. Enfin bon, si mes sources sont bonnes, je pense. Voilà, donc une époque un peu particulière quand même, avec un regard sur la sexualité des enfants qui était
particulière,
discutable. Après la mort de Jean-Paul Sartre en 1981, elle publie La cérémonie des adieux, où elle décrit les 10 dernières années de son compagnon avec des détails médicaux et intimes vraiment crus. Ça choque bon nombre de disciples du philosophe, d'ailleurs. Et ce texte est suivi des entretiens avec Jean-Paul Sartre qu'elle enregistra à Rome en août et septembre 1974, et dans lesquels Sartre revient sur sa vie et précise certains points de son œuvre. Elle veut surtout montrer comment celui-ci a été manipulé par Benny Lévy pour lui faire reconnaître une certaine inclination religieuse dans l'existentialisme, alors que l'athéisme en était l'un des piliers. Ouais. Bon, c'est son regard, en tout cas. Pour Beauvoir, Sartre ne jouissait plus de toutes ses facultés intellectuelles et n'était plus en mesure de lutter philosophiquement. Elle conclut avec cette phrase « Sa mort nous sépare, la mienne ne nous réunira pas. C'est ainsi. Il est beau déjà que nos vies aient pu si longtemps s'accorder. » Et de 55 à 86, elle vit au numéro 11 bis de la rue Victor Schœlcher à Paris, où elle meurt le 14 avril 86, entourée de sa fille adoptive, donc Sylvie Lebon de Beauvoir, et de Claude Lanzmann. Elle est inhumée au cimetière de Montparnasse à Paris, à côté de Jean-Paul Sartre. En tout cas, la mort a réuni leur corps. Elle est entourée avec son anneau qui est en argent, qui avait été offert par son amant Nelson Algren. Je ne sais pas si on dit Algren, d'ailleurs. Je dis Algren,
oui,
c'est Algren, peut-être
c'est,
plutôt.
Oui, c'est Algren, quoi. Mais je sais pas, bon, ce n'est pas très grave.
Bref, donc c'était un anneau qu'il y avait, avec des motifs inca, et il lui avait offert suite à leur première nuit d'amour. Voilà. Ah, voilà. C'est beau.
Oui, c'est beau, ça. C'est beau. Elle a des beaux moments. Alors, voilà. Donc, écoute, ce que je vous propose, là, on va changer de musique. Voilà. Donc ça, c'est la musique de L'Homme au bras d'or. C'est le générique du film d'Otto Preminger, qui est tiré du livre, justement, de Nelson Algren. Donc voilà, c'est une musique d'Elmer Bernstein. Voilà. Alors, on pourra terminer cette émission sur une phrase un peu lapidaire de Simone de Beauvoir, où elle dit « Je suis une intellectuelle ». Ça m'agace qu'on fasse de ce mot une insulte. Les gens ont l'air de croire que le vide de leur cerveau leur meuble les couilles. Donc, tout un programme. Bon, eh bien, j'espère que cette émission vous aura plu. Et la prochaine fois, on va vous parler d'une autre Simone, et ce sera Simone Veil. Eh bien, à très bientôt.
À bientôt. Alors,
dans notre prochaine émission.
Qui c'est qui fait la vaisselle? Faut pas que ça se perde. Qui c'est qui doit rester belle? Les mains dans la merde.
Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera.
Vous mariez pas les filles, ne vous mariez pas.
Histoire d'elle.
Ces femmes parfaites.
De mauvaise vie.
Libérée.
Soumise.
D'esprit.
Fatale.
Tatouée.
Douce.
Savante.
De lettres.
Facile.
Fidèle.
Bonne femme.
Au foyer.
Moderne.
Citoyenne.
De caractère.
Combattante.
Écoutez-nous.
Nous vous parlerons d'elle, de vous et des autres.
Le premier dimanche de chaque mois à 13h.